Imaginons un instant, une population entière qui consacre en moyenne près de 2 heures par jour, chaque jour, à écouter de la musique.
Ouais, c'est énorme.
C'est un niveau d'immersion culturelle qui est massif, c'est bien supérieur à la moyenne nationale. Et pourtant, bah, jusqu'à très récemment, pour l'industrie musicale mondiale et ses grands algorithmes, cette population n'existait techniquement pas.
Complètement. C'est un trou noir sur les cartes.
C'est ça. Un angle mort absolu en termes de données. Et salut à toutes et à tous, on va décortiquer tout ça aujourd'hui.
Bonjour. Et c'est un paradoxe qui, pour le coup, a de quoi fasciner. Je suis vraiment passionnée par ce sujet parce qu'on vit dans une époque où la moindre de nos écoutes est traquée, tu vois. Elle est analysée, monétisée.
Ouais, chaque clic compte.
Exactement. Mais dès qu'on sort de l'Hexagone pour regarder du côté de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou de la Guyane, bah, les immenses bases de données des géants du streaming devenaient soudainement muettes.
C'est fou quand on y pense.
Ah bah les grandes études de marché considéraient ces territoires comme, disons, statistiquement négligeables. Ou pire, elles présumaient que les dynamiques étaient identiques à celles de Paris ou de Lyon.
Ce qui est une erreur monumentale, on va pas se mentir. Et c'est exactement l'objet de notre plongée d'aujourd'hui. On s'appuie sur une étude qui est totalement inédite, menée en 2025 par l'agence guyanaise Le Chewing-Gum.
En collaboration avec Federap, ouais.
Voilà. Et cette étude vient enfin d'allumer la lumière sur cette zone d'ombre. Ils ont interrogé près de 1000 répondants, 932 pour être précis. Donc on a enfin accès aux véritables mécaniques de consommation musicale de ces régions.
Ce qui manquait cruellement.
C'est clair. L'idée de notre analyse aujourd'hui, c'est de comprendre comment la géographie, le climat économique et les infrastructures façonnent vraiment la bande-son de ces territoires. Parce que c'est pas seulement une question de goûts musicaux, hein.
Non, c'est une question de survie culturelle carrément face à une industrie qui est hyper standardisée.
Exactement. Et le point de départ pour comprendre ça, bah c'est de regarder où cette musique est consommée.
Ouais, le contexte physique.
Voilà. Les chiffres de l'étude posent un constat sans appel. La musique, c'est central pour 98% des habitants. Et c'est l'activité culturelle préférée de 88% d'entre eux.
Alors que dans l'Hexagone, ce chiffre plafonne à 76%, je crois.
Ouais, c'est ça. Donc on parle de 12 heures d'écoute par semaine en moyenne. C'est colossal.
Ah, c'est énorme, ouais.
Mais la véritable anomalie, ou plutôt la spécificité locale, elle apparaît quand on regarde les appareils utilisés. Bon, le téléphone portable domine logiquement, à 96%, mais juste derrière, à 86%...
C'est la voiture.
C'est la voiture. Alors que la chaîne et fil traditionnelle de salon, elle capte que 10% des usages.
Et ça, ce chiffre de 86% pour l'écoute en voiture, c'est vraiment la clé de voûte de toute cette étude. C'est fascinant parce que si tu prends un environnement urbain dense comme Paris, la consommation musicale se fait beaucoup dans les transports en commun.
Avec les écouteurs sur les oreilles.
Voilà, de manière assez passive en fait. Mais dans les Antilles ou en Guyane, la géographie dicte une toute autre réalité. Les réseaux de transport en commun sont souvent limités.
Voire inexistants sur certains trajets, ouais.
C'est ça, les distances peuvent être longues. Donc la voiture, c'est pas un simple outil logistique, c'est le prolongement direct de l'espace de vie.
Moi, je trouve que c'est un sanctuaire mobile. Dans ces climats-là, on roule souvent avec la climatisation, les vitres fermées ou au contraire, fenêtres grandes ouvertes le long de la côte. Mais dans tous les cas, l'habitacle devient une véritable salle de concert individuelle.
Une salle de concert avec des basses ?
Bah oui. Et du coup, on peut facilement déduire que ça impacte directement la nature même de la musique qui est plébiscitée. On n'écoute pas du tout la même chose dans un wagon de métro bondé et au volant de sa propre voiture.
Avec le contrôle absolu sur le volume.
Exactement.
Et l'acoustique de la voiture, avec ses haut-parleurs multiples et surtout ses caissons de basse, ça favorise naturellement des genres musicaux bien spécifiques. L'environnement d'écoute façonne vraiment la production.
Ce qui explique pourquoi la pop acoustique domine pas là-bas.
Bah non, la musique doit accompagner le mouvement, elle doit vibrer dans cet espace clos.
Bon, alors, décortiquons un peu tout ça. Qu'est-ce qui fait vibrer ces habitacles ? Contrairement à ce que la pop mondiale voudrait nous imposer, l'étude montre que les genres rois là-bas, c'est le reggae dancehall, le zouk et le hip-hop. Enfin, le rap, quoi.
Et le plus impressionnant, c'est que ces gens sont pas juste importés, genre des États-Unis ou de la Jamaïque.
Non, c'est ça qui est dingue. Ils reposent sur une production locale qui est incroyablement prolifique. L'association Mégamazonie, par exemple, dans l'étude, ils ont recensé plus de 600 sorties de titres urbains.
600 sorties, ouais.
Et 300 clips. Rien qu'en Guyane pour l'année 2024.
C'est fou.
Pour un territoire qui a un peu plus de 300 000 habitants, c'est une densité de production vertigineuse.
Ah, c'est massif. Et il faut bien comprendre le mécanisme derrière un tel volume. Si 600 titres sortent par an sans le soutien financier de grandes maisons de disques parisiennes ou internationales, c'est grâce à quoi ? Bah, à la démocratisation des outils de création.
Le fameux home studio.
Exactement. C'est la culture de l'autoproduction. Un ordi, un bon micro, un logiciel, et ça suffit pour créer des morceaux de qualité vraiment professionnels. Les artistes collaborent numériquement, ils s'échangent des pistes.
Ils contournent le système classique, en fait.
Voilà. Ils contournent les infrastructures traditionnelles de l'industrie qui leur ont toujours fait défaut, pour être honnête.
C'est un écosystème qui s'est construit en marge, purement par nécessité. Et historiquement, c'est pas nouveau. On peut pas parler de ces musiques sans évoquer l'impact du zouk avec des pionniers comme le groupe Kassav.
Ah oui, incontournable, Kassav.
En 47 ans de carrière, ils ont prouvé qu'une rythmique née dans ces territoires pouvait remplir les stades du monde entier. À l'inverse, un fait amusant de l'étude, c'est que la musique classique ou le rock pur frôle le zéro pointé.
Ouais, il y a quasiment pas de groupe de rock locaux.
Et très peu d'orchestres symphoniques, évidemment.
Et ce contraste, ça met en évidence une autre donnée fondamentale de l'étude, qui est peut-être la plus révélatrice sur le plan de l'identité, c'est la question des langues écoutées.
Ah oui, les statistiques là-dessus sont folles.
Le français est présent à 96%, c'est logique, l'anglais à 92%, mais, et c'est là que c'est fascinant, le créole enregistre lui aussi un score de 92%.
C'est incroyable. Un tel pourcentage pour une langue régionale, c'est juste impensable dans l'Hexagone. Aucune musique en langue bretonne ou occitane n'atteint 92% de pénétration dans l'écoute quotidien.
Non, c'est clair. Et ce chiffre démontre que le créole, ça dépasse largement le cadre de la simple communication pour acheter son pain le matin. En étant chanté, produit et écouté aussi massivement, le créole devient l'outil principal de la résilience culturelle.
Une forme de résistance, quoi.
Totalement. Face à l'uniformisation de la mondialisation, chanter en créole sur des rythmes dancehall ou zouk, c'est pas qu'un choix artistique, c'est vraiment un acte de transmission de génération en génération. Ça assure que l'identité survit, tu vois, au rouleau compresseur des grandes industries culturelles.
Sauf que, et c'est là que je veux te relancer, parce que j'ai un vrai problème avec ce qu'on observe sur les plateformes.
Vas-y.
Si on observe cette effervescence, on parle de 600 sorties annuelles, 12 heures d'écoute, le créole à 92%, il y a une contradiction évidente. Si cette scène est si vibrante, pourquoi elle est invisible sur les vitrines du numérique mondial ?
Invisible, le mot est faible.
Bah oui. Sur Spotify, Apple Music, Deezer, l'éditorialisation est famélique. On trouve à peine une poignée de playlists génériques genre Zouk Station ou Grand Cru qui reflètent même pas un dixième de ce qui sort. Il y a un goulet d'étranglement de fou, non ?
Si, si. Et ce goulet d'étranglement, il s'explique par la manière très spécifique dont cette population accède au numérique. L'adoption du digital est massive. L'étude montre que 89% des usages se font via des supports numériques.
D'accord.
Mais la plateforme qui domine outrageusement, c'est ni Spotify ni Apple Music. C'est YouTube.
Hein.
Près de 28% du panel utilisent le streaming vidéo comme support d'écoute principal de la musique.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que les rushs, ce serait de s'imaginer que les auditeurs préfèrent regarder des clips vidéo en conduisant leur voiture, ce qui serait un peu dangereux d'ailleurs.
Un peu, ouais.
La réalité, elle est beaucoup plus pragmatique. Et l'étude la souligne avec insistance. C'est le coût de la vie.
Le nerf de la guerre.
Le niveau général des prix dans ces territoires, il dépasse de 14 à 16% celui de la métropole. Et sur les produits de première nécessité, genre l'alimentaire, ça grimpe parfois jusqu'à plus 40%. Donc dans un tel contexte, un abonnement premium à 10 ou 15 euros par mois...
C'est pas anodin du tout.
Bah non, c'est un sacrifice de 120 à 240 euros par an. C'est un vrai système déculturel que d'aller sur YouTube.
C'est exactement ça. La mécanique, elle est implacable. Quand le budget mensuel d'un foyer est siphonné par les courses, l'essence, les besoins essentiels, le budget culture est le premier à sauter.
C'est évident.
YouTube propose un catalogue immense, gratuit, compensé par de la publicité. L'étude montre bien qu'au final, seuls les 25-34 ans s'orientent vers les abonnements payants et concentrent 72% des abonnements.
Parce que c'est une tranche d'âge qui travaille, mais qui a peut-être pas encore toutes les charges familiales sur le dos.
Souvent, ouais. Mais pour les plus âgés ou le reste de la population, la gratuité avec la pub reste la seule option. Et si on relie ça à une vision plus globale de l'industrie, c'est dramatique pour les créateurs.
Parce que, explique-nous, comment ça fonctionne la rémunération sur YouTube par rapport au streaming audio normal ?
Le modèle économique du streaming vidéo est notoirement désavantageux pour la musique. Les revenus générés par la pub avant un clip sur YouTube, ça rapporte des fractions microscopiques de centimes. bien moins qu'une écoute premium sur Spotify.
Ah ouais, la différence est énorme.
Pour te donner une idée, en France globale, le streaming vidéo génère des volumes d'écoute astronomiques. Mais ça représente que 7% des revenus globaux de la musique enregistrée. 7%.
C'est rien.
C'est mathématique. Si tout un territoire écoute sa scène locale sur YouTube parce que la vie est trop chère, cette scène, même écoutée des millions de fois, elle génère quasiment aucun revenu de streaming.
Donc en fait, l'auditeur qui adore ses artistes locaux les appauvrit mathématiquement sans le vouloir, c'est terrible.
C'est le drame silencieux de ce modèle, ouais.
Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour les autres supports? Parce que si le digital rémunère si mal, on pourrait se dire logiquement que le public va acheter des CD ou des vinyles pour les soutenir, non? C'est ce qu'on voit pas mal dans certains milieux indépendants.
La logique le voudrait, oui. Mais l'étude montre que la part d'écoute via des supports physiques, elle s'est effondrée à 2%.
À peine 2%.
À peine 2%. Et encore une fois, c'est pas un désintérêt pour le CD ou le vinyle. C'est qu'il y a un mur physique qui s'ajoute au mur économique.
C'est l'enfer douanier et logistique, ça. Il faut vraiment en parler parce que c'est hyper méconnu en métropole.
Vas-y.
Si un auditeur aux Antilles veut commander le CD de son artiste préféré sur le net, il se prend de plein fouet l'octroi de mer.
La fameuse taxe.
Ouais. Cette taxe douanière régionale sur les biens importés, même ceux qui viennent de la France hexagonale. T'ajoutes à ça la TVA locale et surtout les frais hallucinants des transporteurs.
Ah, ben les frais de port, c'est l'horreur.
Un CD à 15 euros sur un site, il prend facilement 10 euros de plus une fois livré. Donc on te demande de payer 25 ou 30 euros pour un album. Le prix est doublé.
Et le pire, c'est que pour contourner ça, on se dirait « bah je vais l'acheter au magasin du coin ». Sauf que l'étude pointe un vrai désert physique. Les disquaires disparaissent.
Il reste qui ?
Bah, il reste des irréductibles, genre le Sun Studio en Guyane ou le Sunshine Disquaire en Guadeloupe. Mais les grandes enseignes nationales, genre la Fnac ou Cultura, qui sont sur place, elles ont carrément arrêté de vendre des disques.
Le rayon musique a disparu ?
Totalement. Le consommateur est pris au piège entre un internet hors de prix et des magasins fantômes.
Du coup, c'est quoi la solution actuelle pour les artistes ? Comment ils s'en sortent ?
Bah, 50% des achats physiques qui survivent, ça se fait au stand de merchandising. Pendant les concerts.
De la main à la main, quoi.
Voilà ! Les artistes locaux sont devenus des commerçants ambulants. Ils dépendent à 100% des tournées, des festivals locaux pour dégager un salaire.
C'est un retour à l'artisanat pur. Mais face à tout ça, je veux revenir sur une conclusion de l'étude que je trouvais hyper clivante. Le rapport lance un appel pour, je cite, « un travail pédagogique envers la population ».
Ouais, pour leur expliquer que le gratuit tue la musique.
Mais est-ce que c'est pas profondément injuste? On parle d'une population qui subit un coup de la vie écrasant. Est-ce qu'on peut vraiment leur dire « Hé, vous devez sauver l'industrie musicale locale, arrêtez YouTube et payez vos abonnements !» Pour moi, le problème de fond, c'est la faiblesse des paiements des géants de la tech. C'est pas le gars qui galère à payer ses courses.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Cela soulève une question hyper importante sur la responsabilité de l'industrie. Le véritable point de rupture que les données mettent en lumière, c'est pas le comportement des gens, c'est l'absence de distributeurs numériques spécialisés basés sur ces territoires.
Les agrégateurs, c'est ça, Gann ?
Ouais, les agrégateurs. Ceux qui placent la musique sur les plateformes. Le souci, c'est que sans ces acteurs locaux pour traquer les données, l'écosystème ne peut pas optimiser sa promo. Si un artiste est cartonne en Guyane, mais qu'il n'y a personne pour prendre ses datas et aller taper à la porte de Spotify en disant « Regardez nos chiffres, mettez-nous dans vos playlists principales », l'algorithme s'en fout.
Il faut des professionnels pour faire l'interface.
Exactement. Sans outils de suivi locaux, on ne peut pas forcer les plateformes à rémunérer équitablement ces scènes-là.
Bon, si on fait une petite synthèse de notre parcours d'aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent, on a un territoire ultra musical, 12 heures par semaine immergé dans ses racines créoles.
Dans la voiture, hein ?
Dans la voiture, toujours. Mais il se heurte à un double mur. Un mur économique, qui force l'usage du streaming vidéo gratuit qui paie super mal, et un mur physique, avec les douanes et la disparition des disquaires qui bloquent l'achat de CD.
Ce qui est fascinant au final, c'est que ça montre bien que les statistiques mondiales, elles sont lisses, elles cachent des réalités d'une complexité incroyable. La passion musicale là-bas tente vraiment de survivre aux algorithmes.
Et ça m'amène à une dernière pensée, un truc un peu provocateur pour la suite. À l'heure où l'intelligence artificielle commence à générer de la musique sur mesure, on sait qu'elle se nourrit exclusivement des données hyper visibles sur le net, non ?
Ouais, de l'IA avale tout ce qui est bien référencé.
Voilà. Alors que va-t-il se passer pour les régions qui vivent dans ces fameux angles morts statistiques ?
Ah, la question de l'invisibilité dans les bases d'entraînement.
C'est ça. Si l'industrie mondiale ne voit pas la consommation réelle de ses auditeurs, est-ce que les futures IA vont juste effacer la richesse de ces scènes locales ? Ou Ou alors, est-ce que ces scènes vont, une fois de plus, inventer un chemin de résistance en mode hors radar? C'est vraiment une idée à ruminer.
C'est le grand défi de demain, ouais. Survivre à l'algorithme génératif.
On laissera ceux qui nous écoutent méditer là-dessus. En tout cas, le rythme est loin de s'arrêter dans les habitacles des Antilles et de la Guyane.